Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le mercredi 13 juin 2007 s'est déroulée la remise solennelle des grands prix des fondations de l'Institut de France sous la coupole de l'Institut Quai Conti face au Louvre. Point de mire vous emmène au cœur de l'auguste institution qui abrite les 5 académies, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences, l'Académie des sciences morales et politiques. L'Institut de France a été créé le 25 octobre 1795. Les députés de la Convention avaient alors adopté l'idée encore inédite de réunir toutes les disciplines littéraires, artistiques ou scientifiques en une même institution. Les académies contribuent à l'amélioration des sciences et des arts en rendant des avis, en assurant la publication régulière des découvertes, en distribuant des prix pour honorer les scientifiques, les chercheurs en sciences humaines, les écrivains et les artistes les plus méritants. L'Institut de France gère aussi un millier de dons, de legs, de fondations dont il est dépositaire. Les académies comme l'Institut ont donc deux missions principales, récompenser les talents et honorer la volonté des mécènes dont ils ont eu la confiance. Canal Académie a l'honneur d'accueillir aujourd'hui le chancelier de l'Institut de France, Monsieur Gabriel De Breuil de l'Académie française et membre de l'Académie des sciences morales et politiques pour nous présenter les grands prix des grandes fondations placées sous l'égide de l'Institut. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Alors Monsieur le chancelier, en quoi consiste la création d'une fondation à l'Institut de France ? Et comment se conçoit une fondation ?
Alors c'est toujours une démarche personnelle. Et assez volontaire, souvent assez émouvante d'ailleurs. C'est l'intention de quelqu'un qui distrait une partie de son patrimoine pour l'affecter à une cause d'intérêt général qui lui importe, qui la touche personnellement, et ceci de manière pérenne. Et sous l'égide d'une institution qui apporte son prestige, garantit la pérennité et l'intérêt général. Alors c'est une démarche à la fois personnelle et en même temps très simple, parce que il n'est pas simple de créer une fondation indépendante. Il y a toutes sortes de critères et de procédures à utiliser, et une fondation indépendante doit être reconnue par un décret en Conseil d'État. Ça met des mois. Et ce
une
n'est
fondation
pas
privée.
Oui, une fondation privée reconnue d'utilité publique. Alors que de créer une fondation abritée à l'Institut de France, c'est un acte de consentement, c'est une convention entre le fondateur, le mécène, et l'Institut de France, et c'est une démarche beaucoup plus simple. Et en plus, le mécène a la garantie que sa volonté sera scrupuleusement respectée par l'Institut de France, dont, qui apporte sa garantie au respect des volontés des fondateurs. Donc voilà, c'est une démarche qui n'a pas du tout perdu de son actualité, au contraire, qui connaît un regain d'intérêt.
Alors depuis quand l'Institut exerce-t-il cette mission de mécénat ?
Depuis toujours. Depuis toujours, 1635, l'Académie française avait dans ses missions de répandre le bien et de distribuer des secours avec les sommes qui lui étaient remises à cet effet, notamment par le premier des mécènes, enfin le premier qu'on connaît, qui est Monsieur de Montyon, qui on continue à décerner encore aujourd'hui des prix Montyon pour les gens méritants ou déshérités. Et donc, c'est une démarche qui a toujours existé, mais elle n'avait pas la même nature autrefois que maintenant. Autrefois, c'était des secours individuels en quelque sorte. Ou bien, alors, le modèle classique, c'est un prix, récompenser un livre ou une œuvre. Ça a toujours existé, même en quantité. Maintenant, les fondations sont plus importantes et elles n'ont plus tellement ce caractère individuel. Ce sont des démarches vraiment d'une grande ampleur qui consistent à affecter un patrimoine important à une démarche d'intérêt général pour aboutir à un objectif recherché, à un but. Et souvent, dans ces fondations, les fondateurs ne souhaitent pas seulement récompenser quelqu'un pour une œuvre déjà faite, mais souhaitent encourager, pour des raisons souvent personnelles, une œuvre, une institution, un organisme à développer son action pour aller au-devant de besoins, de situations défavorables qui ne sont pas prises en compte par la société aujourd'hui. Donc il y a un pouvoir d'innovation, un pouvoir de faire. Le mécène donne à des institutions sous la garantie de l'Institut de France un pouvoir de faire, un pouvoir d'innover et un pouvoir de répondre à des besoins qui ne sont pas entièrement pris en compte.
Alors, globalement, combien de fondations sont liées à l'Institut ?
Toutes fondations confondues, un grand nombre, parce que des prix littéraires, il y en a beaucoup, les 5 académies en ont. Et donc, on a dit qu'il y en avait 1 000 000. Je ne sais pas si quelqu'un les a comptés, mais ce n'est pas de cela que nous parlons aujourd'hui. Les grandes fondations, les fondations modernes, sont en nombre environ de 40, entre 40 et 50.
Alors, parmi elles, certaines occupent une place particulière vu l'importance des prix qu'elles décernent. À quoi correspondent donc ce qu'on appelle les grands prix des fondations de l'Institut de France ?
Alors, c'est une dénomination récente, la troisième année consécutive que une cérémonie particulière est consacrée au Grand Prix des fondations. On a donné un seuil qui était de 100 000 euros. Un Grand Prix supérieur à 100 000 euros est décerné sous la coupole au cours d'une séance solennelle. En réalité, il y en a beaucoup plus important que cela. Mais l'échelle va de 100 000 euros à 750 000 euros, puisque les prix les plus importants, deux prix les plus importants, sont de 750 000 euros chaque année par la même fondation, et donc ce qui est tout à fait considérable. Alors c'est cela les grands prix. En même temps, il se trouve que ce sont les prix des grandes fondations, évidemment, et des prix qui ont un renom, qui sont courus, pour lesquels il y a une sorte de sélection, pas de compétition à proprement parler, mais enfin, il y a de nombreux candidats, qu'il s'agit de sélectionner, d'évaluer, et donc ce sont des prix qui ont une certaine renommée.
Alors passons en revue les plus grandes, si vous le voulez bien, Monsieur le Chancelier. Pouvez-vous nous présenter la fondation, par exemple, Christophe et Rodolphe Mérieux, pour commencer ?
Oui, vous prenez probablement la plus touchante, la plus émouvante, en tout cas cette année, puisqu'elle a changé de nom. Et elle s'est appelée Christophe et Rodolphe Mérieux, en souvenir des noms des deux fils du fondateur qui ont disparu dramatiquement l'année dernière, et ce qui a entraîné la modification du nom de la fondation. C'est une fondation extrêmement importante, créée par la famille Mérieux, sur le patrimoine de la famille Mérieux. Ce sont les grands laboratoires Mérieux de Lyon, et qui ont créé une fondation pour contribuer à la recherche appliquée en matière de santé publique, pas de la recherche fondamentale, mais la recherche appliquée dans la lutte contre les maladies infectieuses. Et en même temps, c'est une fondation qui aide au développement de projets en matière de formation scientifique et d'éducation scolaire dans les pays du tiers-monde, dans les pays en développement. Et dans cette aide, il y a aussi un point particulier à laquelle le mécène tient particulièrement, c'est le microcrédit appliqué à des projets intéressants dans les pays en voie de développement. Voilà cette fondation, qui est une fondation humanitaire, non pas de recherche scientifique poussée et fondamentale, mais de recherche appliquée et de développement des moyens de lutte contre les maladies infectieuses, qui développe son action en France, mais aussi dans les pays étrangers, le Cambodge, Haïti, Madagascar et le Mali, et qui distribue chaque année plus d'un million d'euros.
Pouvez-vous évoquer, monsieur le chancelier, la fondation Simone et Cino del Duca ?
C'est une fondation considérable qui a été créée par madame del Duca, la veuve de Cino del Duca, en souvenir de son mari, créée par elle d'abord, puis au moment de son décès, cette fondation a été abritée par la volonté de Madame del Duca à l'Institut de France. C'est une fondation considérable et très complète parce qu'elle intervient aussi bien dans le domaine de la science pure que dans le domaine humanitaire, que dans le domaine de la formation et aussi dans le domaine culturel, rayonnement de la France à l'étranger. Donc c'est une formation de plein exercice, disons, extrêmement complète. Et cette fondation remet chaque année des grands prix, mais ces grands prix sont loin d'être toute l'action de la fondation. Elle a une action permanente assez considérable. Elle aide, elle distribue des contrats pour des étudiants en sciences, mais au-delà d'étudiants, pour des post-doctorants, c'est-à-dire des gens qui ont déjà achevé leur doctorat et qui veulent poursuivre leurs recherches. Elle attribue des aides à des écrivains, aide à l'édition, mais aide aussi au travail d'écriture. Et alors, elle attribue des grands prix, trois grands prix. Un grand prix scientifique, dont le montant est de 300 000 euros. Un grand prix mondial, qui avait été créé par Madame Del Duca de son vivant, qui est le grand prix mondial Simone Cino Del Duca, 300 000 euros, qui a été décerné à des personnalités remarquables au cours des années, et qui cette année est décerné à Mona Ozouf, l'historienne considérable et auteur de nombreux ouvrages très intéressants. Et puis alors, la Fondation Del Duca a créé l'année dernière un prix d'archéologie d'un montant de 200 000 euros qui a pour objet d'encourager l'archéologie française, aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est la première fois qu'un grand prix était consacré à l'archéologie. C'est le prix le plus important au monde dans le domaine archéologique. Et ce prix est remis chaque année sous la coupole. Il est attribué par un jury qui est composé de membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il a une vraie originalité.
Il n'est pas proclamé le 13 juin.
Il l'est proclamé le 13 juin, oui, oui. D'accord. Mais il est sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est dans le domaine de cette académie, n'est-ce pas, l'archéologie. Alors voilà, c'est peut-être la fondation la plus importante abritée à l'Institut de France.
Alors, il y a également la fondation Louis D, qui est aussi de création récente. Toutes les fondations que vous nous présentez, là,
moins de 10 ans,
sont de jeunes fondations avec des montants de récompenses particulièrement élevés, plusieurs centaines de milliers
Louis
d'euros.
Est une fondation extrêmement importante, elle aussi, qui décerne deux grands prix et d'autres prix moins importants qui ne figurent pas parmi les grands prix, mais qui sont des concours, des aides, des encouragements dans beaucoup de domaines. Elle a, elle aussi, un plein exercice, c'est-à-dire elle couvre à peu près tous les domaines de l'activité susceptible de recueillir des prix de la part de l'Institut de France, aussi bien recherche scientifique pure, fondamentale, recherche scientifique appliquée, recherche médicale et également activité culturelle dans tous les domaines, mais surtout encouragement au rayonnement de la culture française dans le monde. Et activités humanitaires, aussi avec un large spectre, c'est-à-dire aussi bien mise au point d'équipements nouveaux que concours à une action particulièrement intéressante dans le domaine humanitaire. Cette fondation décerne chaque année deux grands prix, l'un chaque année scientifique et l'autre alternativement en matière humanitaire et culturelle. Chacun de ces deux grands prix est d'un montant de 750 000 euros, ce qui est une somme considérable, comparable aux prix les plus importants et notamment au montant du prix Nobel, qui a une telle réputation. Et d'ailleurs, le grand prix scientifique Louis D, pour la troisième année consécutive, donc décerné cette année, est en train d'acquérir une véritable réputation internationale tout à fait importante. Quant à un prix de 750 000 euros dans le domaine humanitaire ou culturel, je dois vous dire que l'annonce de ce grand prix représente un événement tout à fait considérable et généralement qui n'a aucun équivalent. Oui. Ainsi, l'année dernière, le grand prix culturel a été décerné au groupe de 6 alliances françaises de Pologne qui était en train de renaître et après une période sombre et de se mettre en réseau pour utiliser ensemble les services les plus modernes d'informatique et de l'Internet pour leur activité culturelle, mais aussi d'enseignement de la langue française et de visite de conférenciers de langue française en Pologne. Eh bien, lorsque l'annonce de ce prix a été faite et qu'on a su que 750 000 euros allaient être distribués à 6 associations qui n'avaient pas de ressources importantes et qui n'imaginaient pas qu'une telle manne pouvait leur arriver, ça a été un événement considérable en Pologne. Le ministre de la Culture de la Pologne, l'ambassadeur de France en Pologne, toute l'ambassade de France, l'ambassadeur de Pologne en France ont été vraiment secoués de satisfaction à cette annonce. Et grâce à cela, les 6 alliances françaises ont modernisé complètement leur installation, ont acquis des locaux, ce qui était très important pour assurer leur indépendance. Jusqu'à présent, plusieurs de ces alliances françaises étaient complètement englobées par l'université et donc n'avaient pratiquement aucune autonomie de fonctionnement. Or, la règle de l'Alliance française, c'est que c'est une association indépendante qui est créée par des gens, des particuliers, qui souhaitent se consacrer au développement de la culture française dans les pays étrangers. Eh bien, elles en ont les moyens maintenant et je dois vous dire qu'elles en sont heureuses.
Alors, cette année, c'est une association qui a également remporté ce prix.
Alors, cette année, c'est un autre phare de l'action humanitaire. Le prix a été décerné aux œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte pour leur très beau projet de bateau, de péniche, spécialement conçue, reconstruite. La péniche existait, mais elle a été entièrement reconstruite et aménagée pour accueillir des personnes déshéritées et dans un contexte de réinsertion complète, sociale et professionnelle, encadrée par une équipe de bénévoles avec quelques permanents qui se chargent de suivre les séjours des personnes déshéritées sur le bateau tremplin de l'Ordre de Malte.
C'est pour leur projet du bateau, le Fleuron Saint-Michel, que l'Association des œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte a reçu cette année 2007 le prix humanitaire de la Fondation Louis D. Il nous reste à évoquer, monsieur le chancelier, deux fondations, la Fondation Le Foulon de la Lande et la Fondation Énergie, qui toutes les deux se consacrent davantage à la recherche médicale, enfin qui ont pour objet de concourir à la recherche médicale.
Alors, ce sont des fondations plus spécialisées, en effet.
Voilà.
Le Foulon de la Lande est une fondation très importante qui fait de nombreuses actions dans plusieurs domaines, mais qui décerne chaque année un prix de 400 000 euros consacré à la recherche médicale dans le domaine cardiovasculaire et, si possible, chez l'enfant.
Et cette année, c'est 500 000 euros qui ont été distribués pour l'année 2007.
C'est ça.
Partez à la découverte du château de Versailles dans un programme spécial. Canal Académie vous offre une visite privée de Versailles avec Mathieu Davina, historien, chercheur au centre de recherche du château. Vous serez guidé dans le grand appartement du roi, dans l'appartement de l'étiquette, dans celui de la reine et dans les lieux de confort et d'hygiène de la résidence royale. Vous seront également présentés le hors-série du Figaro sur la Galerie des Glaces dont la restauration fait événement et le livre de Jérôme Delagorce sur les fêtes à Versailles. Retrouvez Versailles au temps de sa splendeur avec les émissions originales spécialement réalisées pour vous par la rédaction de Canal Académie et disponibles dans notre médiathèque.
Alors, la Fondation Énergie également s'occupe du domaine des neurosciences, je crois.
Alors, la Fondation Énergie a été créée par le fondateur d'Énergie, M. Paul Baudecoux, qui a souhaité consacrer, à titre, je crois, personnel, des parts de son patrimoine pour créer cette fondation qui décerne un prix scientifique d'un montant de 100 000 euros dans le domaine des neurosciences, en effet. Et chaque année, c'est une sélection des équipes ou des laboratoires les plus pointus dans ce domaine. Et chaque année, c'est un professeur renommé qui reçoit le prix. Alors cette année, il a été distribué à deux lauréats, le professeur Francis Eustache, psychologue, docteur en psychologie et directeur à l'école pratique des hautes études, et Madame Béatrice Desgranges, elle-même aussi enseignant recherche, pour leurs travaux dans l'unité de recherche intitulée « Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine ». Mais c'est extrêmement important, n'est-ce pas? La neurologie de la mémoire, on sait où est la mémoire et comment elle fonctionne. Et tout, enfin, on sait, on recherche. Et c'est extrêmement important de faire des progrès dans ce domaine. Donc c'est un très beau prix qui a été décerné.
Un prix qui intéresse l'ensemble des sociétés des pays développés pour faire face aussi au problème du vieillissement, des mémoires défaillantes. Donc effectivement, un domaine de recherche très très important. On voit donc, Monsieur le Chancelier, que les mécènes peuvent être des partenaires. Ou des entreprises, ou c'est toujours une personne?
Non, des particuliers ou des entreprises. On distingue les fondations patrimoine et les fondations de flux. Les fondations patrimoine, c'est qu'un patrimoine est apporté à titre permanent par des particuliers, le plus souvent. Les entreprises, elles, préfèrent plutôt des fondations de flux, c'est-à-dire qu'elles s'engagent à apporter chaque année à l'Institut de France telle ressource pour répondre à l'objet de la fondation, mais des particuliers peuvent aussi créer des fondations de flux, c'est-à-dire s'engager à apporter chaque année. Alors, pour la création de la fondation, il n'y a pas finalement de différence entre des particuliers ou des entreprises. C'est une démarche individuelle, particulière, en quelque sorte, privée, qui s'effectue de manière assez simple.
Alors, quelle importance revêt pour vous justement la proclamation des grands prix des fondations de l'Institut? Mais peut-être, avant de nous parler de cela, comment est née une telle initiative, l'initiative d'une telle proclamation sous la coupole?
Eh bien, la première fois, c'était en 2005. Et à l'époque, M. Pierre Messmer était chancelier de l'Institut. Il voyait que l'arrivée de ces grandes fondations abritées à l'Institut de France n'avait pas le retentissement, n'avait pas la médiatisation qui correspondaient à leur ampleur, à leur importance. Et il a eu lui-même l'initiative de créer une cérémonie solennelle supplémentaire sous la coupole, avec les membres de l'Institut en habit, et avec à la fois réunissant les mécènes, les lauréats, et un assez grand nombre de personnalités qui assistent à cette cérémonie. En 3 ans seulement, cette initiative est devenue une grande tradition de l'Institut, car le succès de cette manifestation est tel qu'on n'imagine pas qu'elle ne puisse pas être renouvelée.
Qu'on la prive aujourd'hui de cette visibilité.
Oui, voilà. Et cette visibilité est appréciée de tous. Évidemment, les mécènes sont heureux de voir la reconnaissance officielle de leur démarche. Les lauréats sont tout à fait contents. Ils ont l'habitude, quelquefois, ils reçoivent. Mais rarement, ils ont des cérémonies aussi prestigieuses que la remise des prix sous la coupole. Et quant au pouvoir public et aux autres institutions scientifiques, ils observent avec grande attention ce qui se fait comme étant un modèle original et tout à fait intéressant, car nos démarches, nous arrivons, l'Institut arrive à distribuer des sommes assez considérables, si on fait l'addition de tout. Ces sommes...
Quel est ce montant, d'ailleurs, à peu près, globalement?
Alors, disons, pour les prix, ne comptons pas les autres choses, mais pour les prix, c'est une somme qui avoisine, qui n'atteint pas, mais qui avoisine 10 millions d'euros. C'est tout de même très important.
Oui, bien sûr.
Et ces sommes sont réparties de manière très sélective, après une recherche très pointue, dans des domaines bien précis. Donc ce n'est pas une action générale d'envergure qui pourrait porter à ombrage aux grandes institutions scientifiques, par exemple. En plus, c'est une action qui intervient toujours en appui de la démarche des grandes institutions scientifiques et des pouvoirs publics, souvent d'ailleurs pour récompenser les équipes du CNRS ou de l'INSERM ou des universités.
Des équipes internationales aussi.
Et des équipes internationales, bien entendu. Une fois sur deux, pour les Grands Prix, c'est international. Donc, cela vient tout à fait dans un appui, une démarche très générale, mais de manière ciblée, très efficace, parce que inattendue de la part des intéressés. Ils ne peuvent pas faire des programmes sur plusieurs années en disant « je vais avoir le prix Louis D en 2010 ».
C'est probablement là la force, justement, de ces grands prix.
C'est une grande force. Et que ces grands prix sont décernés par des jurys indépendants. C'est une autre caractéristique, c'est que La valeur ajoutée de l'Institut de France dans ces grands prix des fondations, c'est l'expertise. C'est que les jurys qui font la prospection pour savoir quels sont dans le monde les principaux laboratoires dans tel ou tel domaine, comment les sélectionner avec le concours des confrères étrangers, des académies des sciences étrangères qui participent à la sélection des lauréats. Cette démarche aboutit à sélectionner toujours des équipes extrêmement intéressantes, extrêmement valeureuses, qui n'avaient pas encore eu leur pleine reconnaissance. Et donc, c'est un coup de lumière et d'encouragement accordé à des gens juste au moment de leur carrière où ils en ont besoin. Peut-être que 15 ans après, ça ne sera plus tout à fait utile, mais il y a un moment où de grands scientifiques ont besoin d'être reconnus et encouragés.
C'est vraiment donc un exemple de mécénat tourné vers l'avenir, un type de mécénat aussi de type moderne. Monsieur le chancelier, quelles sont pour, selon vous, les vertus du mécénat, justement ?
Alors, nous sommes très entraînés dans cette action de mécénat. Et il est important quelquefois de se prendre un peu de distance, n'est-ce pas, de regarder d'où cela vient et où cela va. Nous apercevons maintenant, j'ai eu l'occasion de le dire sous la coupole le 13 juin, que ces démarches sont d'abord des démarches toujours personnelles et volontaires, souvent à la suite de questions intimes, que ce sont des démarches extrêmement ciblées. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi que les gens créent de grandes fondations et instituts. C'est parce que ces personnes ont une volonté. Que cette volonté est toujours d'intérêt général, cela c'est consacré par les statuts mêmes et la reconnaissance des décrets en Conseil d'État lorsque cela est voulu par la procédure. Et puis, ces démarches ont des vertus supplémentaires. Ce peut être, pour des particuliers, des vertus de mobilisation des membres d'une famille autour d'un projet. Et il y a plusieurs exemples d'une famille dont la génération la plus ancienne consacre une partie de son patrimoine en demandant aux générations qui les suivent de concourir à l'action, de s'intéresser à telle ou telle partie de l'action, même d'être responsable de tel ou tel département de l'action de leur fondation. C'est une manière de mobiliser une famille autour d'un objectif d'intérêt général, très, très recommandable. Et puis, les fondations ont aussi des valeurs de mobilisation pour les entreprises. Par exemple, de grandes entreprises ont très bien compris qu'elles pouvaient, grâce à une fondation qu'elles créaient, mobiliser leurs cadres pour consacrer bénévolement une partie de leur temps, de leurs compétences, de leur dynamisme, pour faire progresser telle ou telle action dans tel ou tel domaine. Et généralement, les entreprises le font de manière excellente, de manière très bien vue, très concentrée et tout à fait excellente. Et ce sont des coups d'accélérateur, là encore, non négligeables. Et puis alors, dans un certain nombre de cas, les fondations ont une valeur de dynamisation, de dynamisme, c'est-à-dire qu'on projette sous les projecteurs des gens qui vont, plusieurs années après, devenir des grands noms de la recherche scientifique. Quelquefois, d'ailleurs, la consécration ne se fait pas attendre. Lorsque, par exemple, un lauréat a été choisi une année pour ses travaux scientifiques dans tel domaine et que l'année suivante, il reçoit le prix Nobel pour les mêmes travaux. Mmh. Ou bien qu'un lauréat est choisi pour la qualité de ses travaux, un lauréat étranger, et que la même année, il devient ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche dans son pays. Voilà la vertu du mécénat a un effet direct et tout à fait intéressant de dynamisation.
Alors, comment justement situez-vous ces grands prix des fondations de l'Institut parmi les grands prix internationaux ? Là, il y a justement une belle ambition, mais c'est quasiment atteint.
Ah mais c'est atteint, c'est, n'est-ce pas, de deux points de vue. D'une part, pour le montant des prix les plus importants, 750 000 euros, il n'y a pas de prix qui dépasse ces sommes. Cette année, un prix nouveau a été fondé d'un montant de 500 000 euros par la Fondation Mérieux. Pour la première fois, la Fondation Mérieux a ajouté à sa fondation
un prix supplémentaire
de 500 000 euros, ce qui est tout à fait considérable. Donc, en montant, l'objectif est en effet atteint. Et peut-être Alors, en action de globale, je ne suis pas sûr qu'il existe beaucoup d'institutions susceptibles d'offrir chaque année, de proposer chaque année une telle action de mécénat, d'une telle ampleur, d'une telle diversité, d'une telle ampleur.
Oui.
Et donc, je crois que cette action peut se comparer à toutes les institutions internationales dans ce domaine.
Alors, ces grands prix touchent les domaines scientifiques, culturels et humanitaires. On a effectivement cette triple approche du mécénat des grands prix. Le mécénat scientifique est-il plus actif que le mécénat culturel ?
Il est plus important.
Ouais, pour le montant des prix.
Oui, en montant des prix et en nombre aussi. Alors, en nombre, c'est parce que cela correspond à la volonté des mécènes.
Oui.
Ils décident d'eux.
Oui.
Et on peut comprendre que, s'agissant d'une démarche généreuse, souvent intime, les mécènes choisissent de le consacrer à la recherche scientifique pure ou à la recherche médicale, très souvent. Et donc, là, les nouvelles créations de fondations ou de prix apparaissent plus volontiers dans ce domaine que dans d'autres. Si on compare en montant, en effet, on peut dire que les prix scientifiques sont de très loin la majorité, plus de la moitié, beaucoup plus de la moitié que l'ensemble des prix décernés, je dirais plutôt les deux tiers. Mais c'est naturel, n'est-ce pas ? Cela veut dire que dans le domaine culturel, le montant des prix n'a pas à être nécessairement d'un tel montant, parce que
ce ne sont pas les mêmes choses
qui sont récompensées, n'est-ce pas, qui sont encouragées. Il est assez naturel qu'il y ait ce déséquilibre, qui n'est pas un déséquilibre. L'essentiel, c'est que le spectre soit très largement couvert. Alors évidemment, il faut ajouter à ce spectre les autres prix des académies de l'Institut de France, qui sont très nombreux et qui récompensent, eux, des œuvres de l'esprit. Après tout, de récompenser les œuvres de l'esprit, c'est notre mission.
Parce que là, on n'évoque pas justement tous les autres prix de chacune des académies de l'Institut.
Et les prix de l'Académie française sont célèbres, avec le Grand Prix du roman, le Grand Prix de poésie, le Grand Prix de la Nouvelle, le Prix Paul Morand, le Prix de la Francophonie.
Alors, parmi les prix distribués ces trois dernières années, parmi les grands prix qu'on vient d'évoquer au cours des missions, quel lauréat, Monsieur le Chancelier, souhaiteriez-vous évoquer pour donner une idée aux internautes de ce lien de confiance entre mécène et lauréat ? Bien sûr, vous ne pouvez pas tous les nommer, malheureusement, mais quel lauréat pourriez-vous évoquer ?
Oh, moi, j'aurais envie de signaler, Canal Academy aura déjà diffusé et publié l'ensemble des grands prix. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement mettre le projecteur sur un grand prix qui me semble particulièrement touchant cette année. C'est le lauréat du premier grand prix de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, décerné pour la première fois. J'ai dit 500 000 euros tout à l'heure, c'est 400 000. Mais c'est aussi un montant considérable, accordé pour la première fois au professeur Ogobara Dumbo, qui est un chercheur du Mali, directeur de centre de formation et de recherche de Bamako dans le domaine de la malaria, et qui a été couronné pour ses travaux contre le paludisme, enfin dans ses recherches sur le paludisme, et à la fois par l'émotion créée par ce premier prix, qui est un prix Rodolphe Mérieux, c'est-à-dire porte le nom du fils disparu de la famille Mérieux, et en même temps décerné à un scientifique du Mali qui représente tout ce que l'on peut espérer de mieux en matière de qualité de la recherche scientifique dans un pays en voie de développement et qui contribue à la recherche générale et en même temps qui sert de moteur à la recherche scientifique dans son pays
et
sans rien négliger de la valeur scientifique et de la qualité, ce qui est vraiment un exemple remarquable. Et d'ailleurs, la manière dont a été salué le professeur Dumbo lorsqu'il a reçu le Grand Prix sous la coupole montrait que c'était un suffrage unanime et très enthousiaste.
D'ailleurs, Canal Academy reçoit le professeur Dumbo pour justement la, la récompense qu'il a reçue et pour l'intérêt de ses travaux qui marqueront probablement de grandes avancées dans la lutte contre le paludisme. Alors, connaît-on les retombées de ces grands prix ? Ont-ils un effet d'entraînement ?
Alors, je vous ai parlé il y a un instant des vertus de mobilisation, de dynamisation. Je crois que les grands prix ont une vertu tout à fait importante parce que, par leur caractère, parce que ce ne sont pas des prix qui viennent accompagner une carrière scientifique elle-même jalonnée par toutes sortes d'étapes.
Habituelles ou...
c'est ponctuel, c'est à un moment donné, sans grande préparation, arrive en faveur d'une équipe, d'un laboratoire, une aide, un concours qui permet à cette équipe d'entreprendre. Et les grands prix, généralement, se divisent en deux. Il y a une partie qui va aux responsables de l'équipe à titre personnel pour couronner son action, pour l'encourager à continuer. Et puis une autre partie qui va à titre d'équipement, de subvention d'équipement, pour permettre l'acquisition de tel équipement.
De matériel.
Matériel ou de, c'est ça.
Ou de locaux.
Ou recherche scientifique. Non, pas de locaux. Toujours de matériel scientifique, d'équipement qui manque pour que l'équipe, qui a fait la preuve de sa valeur, puisse développer son action. Et donc là, la vertu d'entraînement, elle est tout à fait évidente.
Alors, le mécénat de cette séance solennelle du mois de juin a fait son entrée sous la coupole, lieu par excellence réservé aux académiciens. Et justement, quel est le rôle des académiciens dans ces grands prix, dans ces jurys ? C'est une partie de leur rôle peu connu du grand public.
Alors,
or, ils s'y investissent particulièrement.
La question a deux aspects, n'est-ce pas ?
Parce qu'ils sont eux-mêmes mécènes.
Oui, vis-à-vis de l'extérieur, c'est l'expertise. Ils apportent l'expertise. C'est la valeur ajoutée.
La caution
de l'Institut, les académies. La richesse intellectuelle est apportée par les académiciens, dans leurs académies d'ailleurs, et ils apportent l'expertise, une expertise reconnue et indépendante, totalement indépendante. Indépendante des corporatismes, indépendante des organismes, disons, de structure. Et donc, c'est vraiment une expertise tout à fait originale et intéressante. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui font que ces prix se développent et représentent quelque chose d'original. Maintenant, vous posez une autre question. Ces académiciens sont tous des bénévoles. Ils ont beaucoup de travaux. Ils participent à d'innombrables commissions, d'innombrables rapports, d'innombrables auditions de personnalités. Ils sont accablés de travaux, en réalité. Et comment acceptent-ils de participer, en plus, à les travaux de sélection et de choix des lauréats pour les grands prix ? Alors, ils l'acceptent bien volontiers, en étant membre des conseils d'administration des fondations, et il se crée, entre les académiciens qui acceptent d'être membres des conseils d'administration et les mécènes, des relations personnelles, directes, souvent d'amitié, souvent prolongées, et qui, quelquefois, se transforment en un véritable attachement. Et donc, quelquefois, il peut se faire que les mécènes ont été appelés à créer une fondation abrité à l'Institut de France par des grands professeurs de médecine ou de sciences qui ont convaincu, développé l'argumentation qui décidait les mécènes à créer une fondation. Donc, c'est en effet une tâche supplémentaire qui n'est pas légère, qui est surtout exécutée scrupuleusement et donc est relativement prenante, mais c'est une tâche acceptée et souvent même facilement acceptée parce qu'elle est très intéressante et qu'il se crée des liens entre les académiciens et les mécènes pour aboutir à ce résultat commun. Le choix des lauréats est en réalité une aventure commune entre, à trois, n'est-ce pas, entre les mécènes, les académiciens et d'une manière générale l'Institut de France qui abrite le tout et pour lequel évidemment il y a une question de crédibilité et de prestige.
Alors pour finir notre entretien, Monsieur le Chancelier Gabriel De Breuil, quelle définition personnelle du mécénat pourriez-vous nous donner ?
Il faudrait trouver une définition moderne parce qu'il existe depuis toujours le mécénat. Pendant longtemps, ça a été mécène, n'est-ce pas ? C'était la commande à un artiste. Et c'était la condition de production et de circulation des œuvres d'art. Ce n'est plus du tout ça, évidemment. Le mécénat s'est étendu à des domaines de prédilection qui sont la science, la médecine, la santé, l'humanitaire et puis évidemment les œuvres de l'esprit. Alors, comment résumer tout cela ? C'est nouveau. C'est une chose, une réaction de la société civile indépendante des administrations. C'est un des points caractéristiques. Si ce courant de générosité est si ample et se développe, c'est qu'il y a dans la société civile, chez les particuliers, dans les entreprises, un souhait de pouvoir développer librement des actions d'intérêt général, généreuses, indépendantes de l'action des administrations, des bureaux, disons. Alors, moi j'aurais envie d'utiliser, pour caractériser ce courant nouveau, très ample, un mot qui est un beau mot, pas tellement utilisé de nos jours, mais qui avait une signification autrefois, et qui est le mot tout simplement de largesse. C'est cela, la définition du mécénat aujourd'hui.
Je vous remercie, Monsieur le Chancelier, pour nous avoir accordé cet entretien et pour avoir si bien évoqué justement les grands prix des fondations de l'Institut de France. Merci, Monsieur.